RCF. Bonsoir à tous, le magazine régional 18h10, 19h en direct, avec un beau programme. Alexis, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous, et avant même d'attaquer le programme, on accueille une nouvelle tête ce soir dans nos studios, Jean-Pierre, une nouvelle stagiaire à la rédaction, Marion, qui est avec nous. Bonsoir Marion.
Bonjour à tous.
Et on la retrouvera tout à l'heure pour la page météo. Au programme de ce magazine régional ce soir, Jean-François Boulanger pour Regarder sur le monde. Il parlera des agriculteurs entre exaltation de la ruralité et agro-business. On sera également, Jean-Pierre, avec un maire qui vous parle, direction les Ardennes, je crois, ce soir.
Oui, il sera question d'Éric Guirch, maire de Sévigné-Alep, dans le département des Ardennes.
Des nouvelles de nos diocèses en cette période de carême. Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, reviendra sur un thème bien particulier.
Oui, le sacrement de réconciliation ou le sacrement du pardon qui est essentiel dans cette période de carême.
Ça sera aussi l'occasion d'évoquer le carême de Sylvie Ferrand, adjointe au doyen à l'espace missionnaire Vignoble dans le diocèse de Châlons. Ça sera en deuxième partie d'émission, tout comme la rencontre avec Rudy Namur, président de l'association Notre Passion, c'est Châlons. Voilà, Jean-Pierre, pour le programme de ce lundi 11 mars.
Permettez-moi d'ajouter, parce que ça sera un événement demain soir, vous savez qu'hier, ce fut une surprise lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'un projet de loi ouvrant une aide à mourir sous conditions strictes serait présenté en avril en Conseil des ministres en vue d'une première lecture en mai à l'Assemblée nationale. Il y a eu dès hier soir une réaction du Conseil permanent et de l'Assemblée des évêques de France par la voix de son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui sera en direct avec nous aux alentours de 18h10 demain. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui parle bien entendu dans des termes assez forts de ce projet de loi, disant qu'il faut plus aider à la vie qu'à la mort. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr demain. Alors tout de suite, on retrouve notre chroniqueur du lundi, c'est bien sûr Jean-François Boulanger. Il est avec nous par téléphone avec Alexis.
Regard sur le monde avec Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Les agriculteurs entre exaltation de la ruralité et agro-business, c'est l'objet de votre chronique ce jour. Il faut dire que le mouvement agricole que nous connaissons récemment a puisé sa force dans l'unité tirée du sentiment que les paysans sont aujourd'hui les laissés pour compte d'une action politique qui privilégie le développement des grandes métropoles et la mondialisation au détriment des racines rurales de la France et de l'indépendance alimentaire que notre pays devrait bénéficier. Cependant, cette unité cacherait selon vous, Jean-François, de profondes contradictions et cela ne daterait pas d'hier.
En effet, mais avant de nous pencher sur les racines historiques de ces contradictions et sur la manière dont ce que l'on a appelé l'agrarisme les a surmontées, il faut d'abord les présenter telles qu'elles existent aujourd'hui. Pour commencer, rappelons que le cahier de revendications présenté par les syndicats majoritaires, c'est-à-dire la FNSEA et les jeunes agriculteurs, est extrêmement abondant, 140 revendications, dont aucune, disait-on au départ, n'était négociable. On aurait pu imaginer que l'on se concentre autour d'un nombre plus réduit de revendications qui seraient unificatrices de l'ensemble des agriculteurs. Mais ça n'a pas été possible parce que, justement, l'agriculture française est très diverse et que le seul moyen de mobiliser tout le monde, c'était de faire un catalogue de 140 revendications, dont aucune n'était négociable parce que ça pourrait donner l'impression qu'on abandonnait totalement certaines exploitations agricoles. Un monde agricole divers par ses productions, bien entendu, par ses formes d'agriculture, ça va du bio à ceux qui utilisent beaucoup de pesticides, et aussi par le niveau de vie des exploitants, car si selon le journal Sud-Ouest, 70% des agriculteurs ont des revenus inférieurs au SMIC, ce n'est pas nécessairement le cas de tous, et notamment de certains de leurs dirigeants.
À qui faites-vous allusion, Jean-François Boulanger? On a compris qu'il y avait une sorte de message caché.
Oui, tout simplement au président de la FNSEA, le principal syndicat agricole, Arnaud Rousseau. Présentons-le rapidement. Il a commencé sa carrière sur les marchés financiers, dans le courtage et dans le négoce des matières premières agricoles. Et puis ensuite, il a rejoint l'exploitation de son père en Seine-et-Marne, c'est en 2001, avant d'en prendre la tête en 2012. Donc il est chef d'exploitation agricole depuis finalement assez peu de temps. Il est producteur de colza, de tournesol, de blé, de betterave sur 700 hectares. Et selon le média en ligne Mediapart, il bénéficierait de 173 000 euros d'aide venant de la PAC, soit 5,6 fois plus que le montant moyen reçu par un exploitant français. Il est par ailleurs à la tête de 5 sociétés et il préside le groupe industriel Avril, qui est une des grosses marques du secteur alimentaire français, qui est connu via les marques Le Sieur et Puget, mais qui est présent également donc ce groupe dans l'alimentation des animaux d'élevage, dans les agrocarburants, dans la chimie des huiles et des protéines végétales. Alors, Arnaud Rousseau est-il représentatif de ce monde paysan où la misère est souvent dans le pré, si vous me permettez cette expression ? Cela peut sembler surprenant. Par contre, c'est dans la droite ligne de l'histoire du mouvement paysan en France, très marqué par ce que j'appelle l'agrarisme.
Et ce que vous appelez l'agrarisme, Jean-François Boulanger, c'est quoi ?
Alors, pour répondre à cette question, il faut encore revenir en arrière aux origines du syndicalisme agricole. À la fin du XIXe siècle, il se polarise autour de deux pôles. La Société des agriculteurs de France, dirigée par des notables conservateurs, des grands propriétaires nobles, souvent royalistes, et deuxième mouvement, la Société nationale d'encouragement à l'agriculture, qui est républicaine. Mais par-delà les divergences politiques, les deux organisations se retrouvent autour de quelques grandes idées fédératrices qui constituent le fondement de ce que j'appelle l'agrarisme, c'est-à-dire l'identité d'un monde rural qui est menacé par l'exode rural à l'époque, lié à l'attraction des villes, qui sont la source de tous les malheurs. Deuxièmement, l'idée que l'agriculture est un secteur à part où les différences sociales ne sont pas aussi nettes qu'ailleurs, et ne devraient pas être clivantes. Et si elles le deviennent, clivante, c'est à cause des idées venues du monde urbain et industriel. Les notables ruraux, donc, peuvent enfreindre, prendre la tête, effectivement, de ce mouvement. Troisièmement, tout cela a pour conséquence que le monde agricole doit s'organiser à sa manière. Dans les années 1930, des organisations politiques souvent très marquées à droite, comme les Chemises Vertes de Dorgères, constitue un front paysan qui s'oppose à l'intervention de l'État dans l'agriculture et qui accuse le front populaire de créer la zizanie dans les campagnes parce qu'il y a des grèves de salariés agricoles. Ce courant très à droite triomphe avec Vichy qui impose la fusion des deux grandes organisations dont on a parlé tout à l'heure dans un banc qui s'appelle la Corporation Paysanne qui est dirigée par Adolphe Pointier qui est un gros exploitant de la Somme, dirigeant de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Bref, un gros céréalier. Et Pétain exalte à l'époque la ruralité parce que la terre ne ment pas, elle, et prône donc le retour à la terre avec des encouragements pour ceux qui retourneraient à la terre. Il y en aura très peu.
On peut supposer qu'à la fin de la guerre, la corporation paysanne disparaît en même temps que le régime de Vichy.
Eh oui, évidemment, hein, mais elle est remplacée par une organisation qui est inspirée par Tanguy Prigent, qui est un paysan breton et socialiste, qui devient ministre de l'Agriculture à la Libération, qui s'appelle la Confédération Générale de l'Agriculture. Alors, elle est marquée différemment, mais elle regroupe toujours les différents groupes sociaux et économiques liés à l'agriculture. Chacun est organisé dans une fédération, les ouvriers agricoles, les techniciens et les exploitants. La spécificité de chacune de ces fédérations et de chacun de ces groupes est reconnue, mais la Fédération des exploitants agricoles va très vite prendre son autonomie. Elle s'appelle la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, autrement dit la FNSEA, et la CGA va disparaître une fois la FNSEA partie.
Mais alors, qui sont ceux qui ont donné son autonomie à la FNSEA et l'ont transformée en organisation prépondérante dans le monde agricole ?
Alors au départ, ce sont souvent d'anciens cadres locaux de la Corporation Paysanne de Vichy, à commencer par René Blondel, qui est un gros exploitant de laine, ancien élève de l'École nationale des arts et métiers de Lille. Il dirige la FNSEA de 1946 à 1954, avant de devenir sénateur inscrit au Centre républicain d'action rurale et sociale. La FNSEA est donc largement dirigé par le groupe des céréaliers du bassin parisien pendant toute cette période. Ultérieurement, des militants souvent passés par la JAC, la JAC, dont Michel de Baptiste, qui vient d'Auvergne et d'une paysannerie beaucoup plus modeste, vont tenter de moderniser l'agriculture et notamment la moyenne agriculture familiale. De Baptiste sera secrétaire d'État aux industries agricoles et alimentaires du gouvernement Raymond Barre entre 1979 et 1981. Donc vous voyez, on n'hésite pas à faire un peu de politique quand même. Et avec De Baptiste, le choix du productivisme est confirmé. Ultérieurement d'ailleurs, il sera le président d'une coopérative qui commercialise jusqu'à aujourd'hui les marques Yoplait et Candia. Et plus près de nous, Christiane Lambert, qui avait précédé Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA, est une éleveuse de porc du Cantal. Par contre, le choix d'Arnaud Rousseau marque un retour effectivement à la direction de la FNSEA, de la grosse agriculture, du bassin parisien, voire carrément de l'agro-business.
Cependant, Jean-François, il existe aujourd'hui d'autres organisations syndicales paysannes, certes moins connues.
Voilà, mais effectivement, les événements récents ont peut-être mis en avant dans certains cas. C'est le cas de la coordination rurale, notamment, qui est le deuxième syndicat agricole, avec à peu près 20% des voix aux élections de la Chambre d'agriculture, qui est dans une vision agrarienne traditionnelle, assez largement. notamment de l'anti-étatisme, le refus des réglementations venues de l'extérieur, notamment de l'Europe, ou concernant l'environnement, et ceci avec une certaine tendance protectionniste qui est quand même bien marquée à droite dans le cas de la coordination rurale. Par contre, de l'autre côté, il y a la Confédération paysanne qui, elle, est plutôt marquée à gauche, qui a été fondée par des militants d'un groupe qui avait quitté les jeunes agriculteurs dans les années 70, qu'on appelait les paysans trait d'union travailleurs. Alors vous voyez, le mot travailleur la renvoie à un vocabulaire de gauche, mais on aura peut-être remarqué que justement, dans le mouvement actuel, ils jouent plutôt un rôle mineur parce que justement, eux ne sont pas dans une logique agrarienne et, disons, ne sont pas forcément dans une hostilité à toute réglementation, notamment en matière d'environnement.
Eh bien, un grand merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé et puis évidemment, affaire à suivre parce que généralement, lorsque l'on regarde sur le monde, on peut prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'il se passe et ce que l'on a fait aujourd'hui avec vous. Mais là, la contestation agricole, a priori, elles vont encore durer quelques jours, voire quelques semaines.
Ah, c'est certain.
À bientôt, Jean-François.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21 dans le magazine régional RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. On reprend les bons réflexes de 18h20 avec un maire qui nous parle ce soir. Éric Guirch, l'édile de Sévigny-Valèbes dans les Ardennes, est en ligne avec Jean-Pierre.
Éric Guirch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion pour nous de donner un coup de projecteur sur votre commune, Sévigny-Valèbes. Est-ce que vous pouvez rapidement nous la présenter? Combien d'habitants? Il y a certainement deux villages, Sévigny et Valèbes, s'il y a deux termes.
Oui, donc nous avons Sévigny et le hameau de Valèbes qui est à 2,5 km. Sur l'ensemble, nous étions 224 habitants au recensement qu'il y a eu en 2020. La commune conserve toujours le même, à peu près le même nombre d'habitants, ça varie très peu, il y a des départs, des arrivées. Dans notre commune, nous avons des cultivateurs, des ouvriers, des retraités. Au niveau des personnes retraitées, nous avons une trentaine de personnes de plus de 70 ans.
Et on imagine, monsieur le maire, que vous connaissez tout le monde. Est-ce que vous êtes un enfant du pays, au fait ?
Non, pas du tout. Je suis arrivé ici en 2018.
Ah ben vous êtes un récent habitant de Sévigny.
Oui, oui, oui.
Et on a fait appel assez rapidement à vous pour devenir maire, parce que vous n'aviez pas eu beaucoup, petite expérience peut-être quand même au conseil municipal.
Non, du tout. J'ai déjà été conseiller, mais sur notre commune, dans les Ardennes. Et ici, je me suis présenté, j'avais envie de m'investir et du coup, je me suis retrouvé maire. C'est un peu par hasard.
Alors, simplement en un mot, monsieur le maire, quand on examine, qu'on regarde un petit peu la situation, est-ce que vous pouvez nous situer la commune pour nos auditeurs des Ardennes et de la Marne surtout? Votre commune est à la frontière, on peut le dire, entre la Marne et l'Aisne. Elle est à combien, 25 km de Rethel? Elle est plutôt dans le sud des Ardennes, enfin à mi-parcours dans les Ardennes.
Oui, nous sommes à 29 km de Rethel exactement.
Donc ça veut dire quand même que le village le plus proche, le bourg le plus proche, c'est en gros c'est Rethel quand même.
Oui, c'est Rethel.
Évidemment, monsieur le maire, je vous interromps, mais on dit toujours dans un village, il y a forcément l'église au centre du village. Et l'église de Sévigny-Valèbes est l'objet quand même de toute votre attention. De quoi s'agit-il exactement, Éric Guirch?
En octobre 2020, j'ai découvert un courrier des Bâtiments de France qui alertait sur le mauvais état sanitaire du fût du clocher. Je suis allé voir et effectivement, il y avait un gros souci, de gros risques. Donc j'ai fait un arrêté de fermeture de l'église et des accès. Et depuis, nous sommes en train de travailler pour trouver des financements pour effectuer les travaux de sauvegarde. Car si rien n'est fait rapidement, le clocher risque de tomber.
Mais alors, monsieur le maire, c'est une somme faramineuse pour une commune comme Sévigny-Valèbes. La première tranche de travaux, ça s'élève à peu près à combien ?
Donc oui, sur les quatre tranches, la première est primordiale pour la sauvegarde de l'église et elle est évaluée à 1 176 452,17 euros TTC.
Ah, vous êtes précis, monsieur le maire, mais le budget de la commune, bien sûr, n'est incapable. C'est à peu près, c'est moins de 100 000 euros par an, hein, donc vous pouvez pas. C'est peut-être un appel aux dons parce qu'il y a une association qui s'est créée. Je crois qu'il y a aussi la Fondation du patrimoine qui éventuellement vous donne un coup de main.
Oui, nous avons signé une convention avec la Fondation du patrimoine et nous avons une cagnotte en ligne qui est déjà dans les 10 000 euros environ.
Alors, il y a encore du chemin à faire. Hein.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais bon, c'est déjà bien de voir que les gens sont attachés à leur église. D'ailleurs, il y a une association qui s'est créée en février 2023, Sauvons le patrimoine de Sévigny-Ouellep, qui organise des manifestations afin de générer des bénéfices qui seront renversés pour les travaux de l'église.
Donc, alors cette association, on l'encourage bien sûr sur RCF, parce que beaucoup de personnes, même si on sait très bien que dans les villages il n'y a plus beaucoup d'offices, il n'y a plus beaucoup de messes régulières, mais tout de même ça fait vraiment partie du patrimoine. Il y a beaucoup d'habitants qui ont habité à un moment donné à Sévigny. Ils veulent retrouver leur église de temps en temps pour un mariage, et évidemment pour des décès malheureusement. Mais c'est quand même important pour les habitants.
Oui. Quand il y a un décès, les gens sont obligés de demander à la commune de Saint-Quentin-le-Petit, qui se trouve à côté. C'est dommage.
Éric Guirche, bon, je vous coupe parce que, évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver. On a encore, bien sûr, quelques minutes avec vous. Donc, l'essentiel, en ce moment, c'est la restauration de l'église. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Il y a une association qui est créée, il y a une cagnotte en ligne, il y a la Fondation du patrimoine qui est sur le coup. D'ailleurs, on invitera prochainement Pierre Possémé ou Bernard Deloriston pour nous en parler. Mais il y a peut-être aussi quelques autres projets, peut-être de voirie, peut-être d'aménagement, peut-être des fleurs, peut-être, j'allais dire, le quotidien de la commune.
Oui, on essaye de tous les ans de s'améliorer au niveau du fleurissement. Bon, il y a un peu de voirie forcément, du curage de fossés, enfin les travaux nécessaires qui reviennent régulièrement. Et nous avons eu un autre gros dossier, c'est l'aménagement du cimetière et son agrandissement. Parce que nous avions, il ne nous restait plus que 5 places dans le cimetière actuel. Donc il faut qu'on a acquis une parcelle voisine de façon à agrandir. Et donc entre les travaux d'aménagement, d'accès et d'acquisition, la commune en a pour 60 000 euros.
Oui, ça coûte de l'argent, hein, bien sûr, ça coûte de l'argent. Et donc ça, pour un budget de 80 000 euros ou 100 000 euros, 60 000, c'est quand même beaucoup plus l'église. Alors comment vous vivez depuis que vous avez été élu maire, ces fonctions? Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est lourd d'être maire? On ne croirait pas le travail que ça demande, les paperasses, l'administration, les gens qui vous interpellent parce que vous êtes à portée d'engueulade, comme disait Gérard Larcher au Sénat. Ça aussi, vous le vivez au quotidien, mais vous aimez bien ça, vous êtes passionné, Éric Guirche.
Oui, mais il le faut, hein, pour faire son travail correctement, c'est nécessaire.
Après, mais est-ce que vous avez, ça je vous interromps encore, est-ce que vous avez encore, c'est peut-être indiscret, une activité professionnelle? Parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont en retraite et qui dégagent quand même beaucoup de temps et ils sont libres en journée, alors que quelqu'un qui a une activité professionnelle, lorsqu'il est maire de la commune, il a quand même beaucoup de contraintes.
Oui, moi je suis encore en activité. Et c'est vrai que le poste de maire était très prenant et que quand on travaille, c'est un peu plus compliqué.
Pour des réunions, parce que vous êtes obligé de les faire forcément en soirée ou en début de soirée, ça c'est quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, vous êtes un passionné. Et moi, ce que je vous propose, Éric Guirche à Sévigny-Ouellep, c'est que on se retrouve assez prochainement parce que on va reparler de l'église, donc avec Pierre Possémé, puisque la Fondation du patrimoine est sur l'affaire. Et puis, on vous demandera si vous êtes d'accord d'intervenir pour demander à des donateurs éventuels de venir vous rejoindre. Merci en tout cas, Éric Guirche, d'avoir été avec nous. Vous êtes le maire de Sévigny-Ouellep. À bientôt sur RCF.
À vous également, oui, à bientôt.
Après Éric Guirche, sachez que demain midi, nous écouterons le maire de Villers-Allerand, Bernard Weiler, et que demain matin, c'est Pierre Possémé et Bernard Deloriston qui seront nos invités sur RCF Reims-Ardennes, mais qui reviendront dans le magazine régional de 18h à 19h. En tout cas, il est pratiquement 18h30, c'est l'heure de retrouver les infos régionales avec Alexis Claudretz.
Les titres de ce lundi 11 mars, l'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne organise un spectacle de théâtre, La Rumination des Agriculteurs, ce jeudi 14 mars à 14h30 à l'espace culturel Les Tourelles à Vouziers. Présentation. 9000 décès par suicide sont recensés chaque année en France. Depuis octobre 2021, un numéro national de prévention a été mis en place, le 3114.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Avant de développer ces titres, Jean-Pierre vous en parlait en début d'émission dans une interview commune aux journaux Libération et La Croix. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé qu'un projet de loi sur la fin de vie sera présenté en Conseil des ministres en avril. L'Église catholique en France réagit face à ces annonces par la voix de son président, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Dans un entretien publié ce jour dans La Croix, il dénonce notamment appelée loi de fraternité, un texte qui ouvre le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. L'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, sera notre invité dans le magazine régional demain soir, Jean-Pierre.
Absolument, Alexis. Il est actuellement l'archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France en déplacement au Luxembourg, plus précisément à Clairvaux. Il sera donc en direct aux alentours de 18h10 demain soir. Il reviendra, comme vous l'avez dit, sur la déclaration du président de la République. Il invitera plutôt à une aide à vivre plutôt qu'à une aide à mourir.
Deux temps forts rythmeront l'après-midi de ce jeudi 14 mars de l'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne qui vivra d'abord sa 7e assemblée générale placée sous le signe de l'innovation avant de proposer un spectacle de théâtre ouvert à tout public à l'espace culturel Les Tourelles à Vouziers. Odile Mouchet, présidente de l'association, est en ligne avec nous ce soir. Prenons les choses dans l'ordre chronologique. Odile Mouchet, d'abord l'assemblée générale, c'est toujours le temps fort annuel d'une association, Odile Mouchet.
Tout à fait, oui. Bonsoir Alexis. Donc, comme vous l'avez si bien annoncé, nous avons placé notre 7e assemblée générale sous le thème « L'agriculture en difficulté reprend la parole ». C'est le moment important d'une assemblée générale où le conseil d'administration rend compte aux adhérents des actions. Et nous avons voulu redonner la parole à tous ceux et toutes celles qui ont traversé des moments très difficiles, qui ont impacté leur profession, tant sur le plan problème de santé, problème économique, familiaux, enfin tout ce qui fait que un agriculteur à un moment s'est vu en difficulté et était menacé de trébucher. Et parce qu'il a osé demander de l'aide pour s'en sortir, on a décidé de mettre en lumière cet événement, de montrer qu'on peut s'en sortir en appelant Solidarité Paysan.
Odile Mouchet, il y a cette assemblée générale, après quoi il y aura un spectacle ouvert à tout public proposé par la troupe Les Arcamédiens. Le spectacle, c'est la rumination des agriculteurs. En quoi consiste cette rencontre avec ce spectacle et cette troupe, Odile Mouchet, en quelques mots?
Alors, dans l'idée de reprendre la parole, les Arcamédiens, ce sont des agriculteurs, agricultrices et artisans du Pas-de-Calais qui ont été accompagnés par Arcade, donc Solidarité Paysan du Pas-de-Calais. Et donc, ils viennent nous présenter leur deuxième pièce de théâtre parce qu'ils se sont retrouvés en troupe de théâtre autour d'un metteur en scène professionnel. Donc, en fait, le théâtre, c'est pour eux une thérapie pour mettre en avant les problèmes qu'ils ont traversés et pouvoir dépasser tout ça et retrouver l'estime d'eux-mêmes.
Rendez-vous ce jeudi 14 mars donc à l'espace culturel Les Tourelles à Vouziers à partir de 14h30. Merci Odile Mouchet, vous êtes
Merci
la présidente de l'association Solidarité Paysan, entrée 5 euros. Infos et réservations, c'est auprès de vous évidemment au 06 41 98 80 81. 06 41 98 80 81. On continuera de rappeler le numéro dans nos prochaines éditions d'ici jeudi. Merci Odile Mouchet, à très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Une personne sur 20 déclare avoir eu des pensées suicidaires. 9000 décès par suicide sont recensés chaque année en France. C'est 3 fois plus que les décès par accident de la route et la seconde cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents routiers. Le 3114 est un numéro national gratuit de prévention du suicide et un site internet de conseil. La personne ne doit pas rester seule et être aidée par un professionnel de santé. Xavier Sip est infirmier coordinateur au centre régional de prévention de suicide de Nancy.
le 3114, qui est quand même le numéro national de prévention du suicide, qui a été mis en place pour répondre à la souffrance des personnes, en tout cas créer un espace de parole. Toute personne qui est en détresse, qui a des pensées suicidaires, vous avez connaissance, vous voulez aider une personne qui est en souffrance, vous pouvez contacter le 3114, qui est donc accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est gratuit, qui est sur tout le territoire national. Donc on a le centre répondant pour le Grand Est qui se situe à Nancy. C'est des professionnels de soins qui sont spécifiquement formés à la prévention du suicide, qui sont là pour vraiment écouter et vraiment évaluer la personne dans sa crise suicidaire, pouvoir l'orienter et surmonter un petit peu ses difficultés, parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir.
Les professionnels constatent une hausse des tendances suicidaires, notamment depuis la crise du Covid.
Depuis la Covid, c'est les jeunes filles ou jeunes femmes âgées de 11 à 25 ans qui ont été le plus impactées, en tout cas qui présentent le plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte suicidaire depuis la Covid. Mais virtuellement, tout le monde peut être concerné par des idées suicidaires. La littérature scientifique montre que nous ne sommes pas tous égaux face à ce risque suicidaire. Ça varie en fonction des personnes et des circonstances. Le fait que certaines personnes soient plus à risque que d'autres s'explique notamment par la notion de vulnérabilité. Vulnérabilité d'une personne, ça dépend des facteurs que l'on hérite, de nos parents, d'éventuels problèmes survenus autour de notre naissance, d'événements de vie difficiles au cours de notre enfance, de notre adolescence ou encore de la présence justement de troubles psychiques.
Une vulnérabilité combinée à un événement douloureux peut faciliter le passage à l'acte, d'où le besoin de se faire aider.
Chez une personne qui présente une vulnérabilité préalable, l'accumulation d'événements douloureux peut générer un niveau de souffrance tellement intense qui va dépasser ses capacités d'adaptation et ça devient souvent insoutenable. C'est à ce moment-là que les idées suicidaires vont commencer à émerger. Sachant que le niveau de souffrance devient critique, c'est vraiment un dernier événement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un facteur précipitant en tout cas. La taille du vase représente grosso modo la vulnérabilité de la personne et au fur et à mesure des événements douloureux qui surviennent dans sa vie, il se remplit au fur et à mesure, faisant monter le niveau de détresse. Lorsque le vase est plein, le passage à l'acte intervient.
Des propos recueillis par Sébastien Soucy pour RCF. Une formation au premier secours en santé mentale se déroule sur 2 jours pour mieux aider une personne ayant des idées et comportements suicidaires. Info à l'adresse pssmfrance.fr. Jean-Pierre, je suis sûr que vous avez suivi le sport ce week-end.
Absolument.
Et vous n'avez pas manqué l'exploit du Stade de Reims, on peut
appeler
ça comme ça.
Absolument, le match nul de Reims, vraiment. L'entraîneur était aux anges, Jean-Pierre Caillot, on imagine, était lui aussi extrêmement heureux. Et puis j'ai vu Cyril de la Morinerie qui était présent au Parc des Princes et qui vraiment était aux anges lui aussi.
Aucune actualité ne vous échappe effectivement en football. Le Stade de Reims a réalisé une très belle performance lors de cette 25e journée de Ligue 1 ce dimanche. Match nul 2-2 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Les stadistes sont 9e du classement avec 35 points. Joli coup aussi en Ligue 2 pour 3 dans l'opération maintien. Victoire 2-0 face à Bastia samedi soir. Désormais 14e avec 34 points après 28 journées. Les Troyens ne comptent plus qu'un point d'avance sur le premier relégable. En volley, Chaumont a assuré sa qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine en validant sa première place à l'issue de la saison régulière. Alors qu'il reste encore 2 journées à disputer, les Haut-Marnais ont disposé difficilement de Paris samedi soir, 3-7-2, un week-end de radieux pour tous nos principaux clubs qui jouaient, puisqu'en basket, dès vendredi soir, le Champagne Basket a dominé Paula Cortez 75-68 lors de la 23e journée de Pro B. 2 victoires séparent l'Alliance champenoise d'une qualification en play-off en fin de saison. Avant de refermer ce journal, place à la météo, avec une nouvelle figure qui nous rejoint aujourd'hui en stage à la rédaction, Marion Yernard. Elle est plutôt sport de combat. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Alors, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce mardi ?
Alors, pour demain, mardi 12 mars, le temps sera similaire sur tout le territoire avec un temps plutôt nuageux. Mais attention au risque de pluie dans les Ardennes, à Rethel et dans la Marne, à Sainte-Menou dans l'après-midi. Nous aurons des températures aux alentours de 8 degrés pour la matinée. Légère augmentation prévue dans l'après-midi avec 10 degrés. Les températures baisseront dans la soirée avec 7 degrés. Sans oublier que nous fêterons les Justines. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion. Et pour cette première météo, vous avez dit on embrasse Papou, Maman et Momo, c'est bien ça ?
Exactement.
Voilà, on salue toute la famille de Marion. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue à 18h40.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
En cette période de carême, on retrouve régulièrement des témoins de nos dieux diocèses dans le magazine régional. Sylvie Ferrand, adjointe à l'espace missionnaire, vignoble Pardon, d'ailleurs, elle n'est pas du tout adjointe. Elle est adjointe au doyen à l'espace missionnaire Vignoble. Soyons précis, dans le diocèse de Châlons, elle est au micro de Christopher Fausten pour témoigner de son carême.
Mon carême, sur RCF.
C'est ce qui nous prépare à la fête de Pâques, qui est la fête de la résurrection du Christ et la promesse de notre propre résurrection.
Un instant de spiritualité proposé par Christopher Fausten.
Mon carême avec Sylvie Ferrand, adjointe au doyen de l'espace missionnaire du Vignoble, à savoir le père Grégoire Houlon. Sylvie Ferrand, bonjour. Première question, qu'est-ce que le carême pour vous ?
Le carême est un temps liturgique important. 40 jours rythmés par la prière, le jeûne et l'aumône. En tant qu'adjointe du doyen, je m'engage pleinement dans cette période de préparation spirituelle en mettant en pratique ces trois piliers.
Sylvie Ferrand, comment vivez-vous ce temps de carême ?
Tout d'abord, la prière. C'est le moment de faire le point sur ma relation avec Dieu. La semaine dernière, nous avions une rencontre des laïcs en mission ecclésiale et lors de cette journée, il m'a été demandé de témoigner sur ma prière dans ma mission d'adjointe du doyen. Ce fut pour moi l'occasion d'une relecture et d'une prise de conscience de certaines lacunes. Ainsi, de me fixer quelques objectifs afin de progresser et de me recentrer sur l'essentiel. J'ai donc décidé de participer aux différentes propositions de carême faites aux paroissiens d'Épernay. L'adoration le jeudi soir à 20h30, un groupe de carême avec le livret réalisé par les religieuses du diocèse le jeudi à 14h et le chemin de croix le vendredi à 15h. Je réponds donc à l'appel de notre administrateur diocésain Denis à faire l'expérience de la fraternité de carême et de vivre les cinq essentiels. Ensuite, le jeûne. C'est une pratique importante qui m'aide à me détacher du matériel et à me rapprocher de Dieu. Deux jours de jeûne sont fortement recommandés, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le reste du temps, je limite ma consommation de nourriture en renonçant à certains aliments ou habitudes. Je dis souvent à mes enfants que le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, mais de tout ce qui m'éloigne de Dieu et des autres. Ce qui fait qu'en me privant de certaines choses, je suis davantage disponible pour écouter Dieu et répondre à ses appels. Enfin, l'aumône. Je cherche des occasions de servir les autres et de partager ce que j'ai avec ceux qui en sont dans le besoin. Cela peut se traduire par des dons à des œuvres de charité, mais aussi par des actions concrètes pour aider les plus démunis. Il y a quelques semaines déjà, avec mon mari, nous sommes allés rejoindre notre fille Fleur-Isabelle au Maroc. Elle est partie une année en mission de volontariat auprès des migrants. Ce fut pour nous l'occasion d'emmener des vêtements de bébé, des livres de coloriage et des crayons pour les enfants, ainsi que du matériel médical pour que l'association Caritas puisse mener à bien sa mission auprès des plus vulnérables. Et puis, en travaillant aux côtés du doyen à Épernay, je m'efforce de promouvoir une culture de la solidarité et de la générosité, où chacun est encouragé à donner de son temps, de ses talents et de ses ressources pour le bien des autres. Pendant le carême, chacun est invité à approfondir sa foi, à se convertir et à se mettre au service des autres à l'image du Christ. Tout ceci demande une certaine discipline, des exigences et de l'humilité pour suivre Jésus sur le chemin pour que l'amour de Dieu réchauffe nos cœurs.
Merci Sylvie Ferrand, adjointe au doyen de l'espace missionnaire du Vignoble. Très bon carême à vous.
Ensemble, vivons ce désert avec Jésus.
Le 18-19 sur RCF.
Et on reste dans cette thématique du carême avec l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, désormais Mgr Étienne Véteux, qui parle plus particulièrement du sacrement de réconciliation avec Jean-Pierre.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent.
Alors c'est vrai que nous sommes en période de carême, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur RCF. Alors on évoque beaucoup en ce moment le sacrement de réconciliation. Alors on a envie de vous poser la question, Monseigneur, qu'est-ce que le sacrement de réconciliation et quel est son lien finalement avec le carême ?
Donc le sacrement de réconciliation, c'est ce sacrement où on se retrouve avec un prêtre et on confesse ses péchés et on reçoit l'absolution, on reçoit le pardon de Dieu. Parfois ça se fait de manière communautaire, où on se retrouve pour une assemblée et puis après on voit chacun des prêtres d'un côté. Et c'est très très lié au carême, tout bêtement parce que c'est une des meilleures manières de se préparer à Pâques, c'est-à-dire dans les dernières semaines avant Pâques, ouvrir son cœur, se purifier, se rendre prêt. C'est aussi parce que la Pâque est le moment où nous célébrons la victoire du Christ sur le péché. La passion et la résurrection du Christ, c'est la victoire du Christ sur le péché. Et le sacrement de réconciliation, c'est justement le sacrement où on peut déposer ses péchés et laisser cette victoire les laver et nous en libérer.
Alors, effectivement, Monseigneur, on peut se poser également la question, à quoi ça sert de se confesser finalement?
C'est une bonne question. Il y a aussi beaucoup de gens qui passent leur vie sans se confesser, sans y avoir accès. Moi, je dirais que une des choses les plus importantes, c'est de mettre en mots ce qui nous trouble. Et on le sait que ces moments où on arrive à mettre en mots et de mettre des mots sur nos difficultés sont souvent des moments de grande libération. Et peut-être le mot libération est un des mots les plus importants ici. J'ai une amie juive qui récemment, quand je lui parlais du sacrement de réconciliation, me disait « Oh, quelle chance vous avez les catholiques !» Parce que nous, quand on se retrouve avec notre conscience, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'adresse à Dieu, et c'est le plus important, mais on n'a pas cette chance. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive à mettre des mots sur notre péché, à les confesser? Ben, d'un côté, on dit qu'on en est vraiment responsable, on devient libre parce qu'on dit « c'est moi, c'est ma responsabilité ». Et d'un autre côté, on le dit parce qu'on veut être libre. Et donc on dit en même temps « Seigneur, ceci qui est vraiment mon péché, je ne veux plus, à toi de jouer ». À toi de jouer. Je me rappelle quand j'étais ado, j'essayais d'éviter d'aller me confesser à une période parce que je me disais, mais ça change jamais, je dis toujours les mêmes choses. Eh ben, j'avais rien compris. J'avais rien compris parce que c'est justement dans ces moments où nous n'arrivons pas par notre propre force à changer quelque chose que le sacrement de réconciliation ouvre les portes.
Alors, on peut s'interroger également, Monseigneur, que confesse-t-on lors du sacrement de réconciliation? Qu'est-ce qu'on confesse finalement? Comment se confie-t-on dans ce sacrement?
Peut-être que c'est le point le plus important parmi les questions que vous me posez. Et si quelqu'un veut quitter cette émission avec une seule idée, ce serait de partir avec cette idée. Dans les liturgies des premiers siècles, le mot qui était utilisé pour confesser, c'est « exomologesis » ou « exomologestai », qui en grec veut dire d'abord « confesser l'amour de Dieu. Quand on vient devant un prêtre pour confesser ses péchés, le plus important, c'est de confesser l'amour de Dieu. Et c'est dans cet amour de Dieu, parce que Dieu m'aime et parce que j'ai confiance qu'il m'accueille, que je peux confesser mon péché. Et je sais qu'il y a des préparations pour enfants de confession où on demande à l'enfant, avant de faire la liste de ses péchés, de commencer par dire les 2-3 points positifs de sa journée ou les 2-3 points positifs de sa vie, action de grâce. Et c'est très profond. C'est très profond parce que c'est la chose la plus importante que nous avons à confesser de Dieu. Et aussi, c'est que finalement, quand on n'est pas devant l'amour de Dieu, ce n'est pas des péchés que nous voyons dans notre vie, mais plutôt des erreurs, des vices, des choses que nous regrettons. Alors que le péché, c'est un mot très spécifique. Et le péché, c'est quelque chose qu'on a fait envers Dieu qui m'aime, ou envers l'autre qui m'aime, où j'ai blessé l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Et c'est seulement devant cet amour, quand je vois le regard d'amour de Dieu ou le regard de l'amour de l'autre, et je me dis « Ah, oh, j'ai fait ça !» Et je ne suis pas simplement en train de me regarder et de dire « Ah, j'ai pas fait ce qu'il fallait !» C'est différent, hein, je répète, « J'ai pas fait ce qu'il fallait !» ou bien « Ah, oh, j'ai fait ça !» Alors là, oui, là c'est la prise de conscience du péché.
Il y a celui et celle qui se confesse, d'ailleurs les auditrices et les auditeurs vont sans doute le faire en cette période de carême, mais il y a aussi le prêtre. Le prêtre lui aussi, d'une certaine façon, il vit forcément ce sacrement. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour lui, Monseigneur?
Excellente question, Jean-Pierre. Oui, le prêtre d'abord vit la joie d'être témoin du pardon de Dieu. Et c'est vrai que dans beaucoup de confessions, on en sort avec une vraie consolation en disant « là, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose d'important. Et j'ai été témoin de Dieu qui pardonne. » Et parfois, autre chose, c'est que devant telle ou telle confession, le prêtre se dit « Ah mais moi aussi, je suis comme ça. » Et parfois, « Ah, oh, je suis bien pire que ça. Je suis en train de confesser à un saint. » Et ça nous met devant notre propre besoin du pardon de Dieu. Et dans un sens, en exagérant un petit peu, j'ai dit, le prêtre n'a pas besoin de préparer ses confessions, c'est la confession des autres qui prépare sa confession. À la fin d'une journée de confession, il sait très bien de quoi il a besoin de se confesser.
Il doit vivre certainement à ce moment-là intensément son ministère et sa mission de prêtre. Il est cet intermédiaire, il est ce confesseur, mais lui-même il est imprégné de cet amour de Dieu et de cette parole de Dieu.
Vous avez raison, il y a les deux aspects, c'est-à-dire que oui, c'est lui qui va donner la parole d'absolution, qui va dire « Au nom du Christ, je te pardonne tous tes péchés ». Moi, je te pardonne tous tes péchés, qui est une parole très forte. C'est très impressionnant, même surtout pour un jeune prêtre, de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, le rituel de la confession dit qu'au tout début du sacrement, le prêtre et le fidèle doivent ensemble se tourner vers Dieu parce que tous les deux sont pécheurs. Et donc, le prêtre et le fidèle se présentent comme des pécheurs devant Dieu.
Alors évidemment, Monseigneur, la question qu'on peut se poser, doit-on se confesser pour être pardonné par Dieu? On pourrait dire, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui ne se confessent plus ou qui ne se confessent pas en disant, je ne me confesse pas, mais doit-on se confesser?
Dieu, dans son immense bonté et sa générosité, nous donne beaucoup de manières de recevoir le pardon. Le début de la messe, où il y a un kyrie, c'est aussi un lieu où on reçoit un pardon. Il y a un acte pénitentiel. Un pèlerinage fait avec une vraie intention intérieure, c'est un lieu où on reçoit le pardon. Et bien sûr, dans l'intimité de ma chambre, quand je crie vers Dieu, « Seigneur, pardonne-moi », Dieu pardonne. En fait, Dieu aime pardonner. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'unique dans le fait de partager avec quelqu'un d'autre cette expérience, de dire « Toi, tu représentes l'Église, tu représentes le Christ et tu vas être témoin du fait que j'ai vraiment envie de sortir de là. » Mais dans tous les cas, ça veut dire que le moment où Dieu a pardonné, ce n'est pas le moment de la confession, ce n'est même pas le moment où je crie vers lui. Le moment où Dieu a pardonné, c'est sur la croix. C'est la passion et la résurrection du Christ qui, il y a 2000 ans, nous ont pardonné et nous célébrons le pardon. Le meilleur mot pour dire ce que est le sacrement de réconciliation, c'est nous allons célébrer le pardon. On devrait le dire quand on dit « venez vous confesser tel jour, le 20 mars », c'est pas « venez vous confesser », c'est « allons célébrer le pardon que j'ai déjà reçu de la part de Dieu ». Pour que je puisse y entrer, bien sûr, j'ai besoin de faire l'acte d'y entrer.
Est-ce que ça ne donne pas la confession une intensité dans le pardon, c'est-à-dire une intensité dans la libération devant la confession?
Bien sûr, quand on est à deux à le vivre, il y a beaucoup plus d'intensité que quand on est seul, la plupart du cas. Et dans le texte que j'ai commenté, j'ai fait hier soir une présentation sur le sacrement de réconciliation à Sillery à partir de Jean 4, la Samaritaine. Et au milieu du texte, il y a cette phrase magnifique, « Si tu savais le don de Dieu ». Je crois que ça peut être la meilleure conclusion. Devant le sacrement de réconciliation, oh, « Si tu savais le don de Dieu ».
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et sans transition, pour terminer ce magazine direction Chalon en Champagne, où vous pouvez vibrer au rythme d'un goûter dansant convivial ou découvrir des saveurs authentiques sur les marchés éco-solidaires, une expérience où plaisir et engagement se rencontrent pour une bonne cause, Rudy Namur, président de l'association Notre Passion, c'est Chalon, est au micro de Grégory Etulay de RCF Cœur de Champagne.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Notre Passion, c'est Chalon, c'est quoi?
Alors, Notre Passion, c'est Chalon et son agglomération. On y tient parce qu'en fait, il y a Notre Passion, c'est Chalon. C'est le groupe que je préside au conseil municipal. Notre Passion, c'est Chalon et son agglomération. C'est une association dont je suis membre actif. Je suis pas président. C'est Nadège Moury qui est la présidente. C'est l'association donc qui porte l'organisation des marchés éco-solidaires sur le territoire, alors sur le territoire, pas uniquement qu'à Chalon, mais aussi à Saint-Mémy, à Fagnières, et donc dans les quartiers les plus en difficulté ou les plus demandeurs, on va dire ça comme ça, qui composent notre belle ville de Chalon.
Et cette association est née quand?
Cette association, elle est née Il y a plusieurs années maintenant, ça doit être fin 2021, de mémoire, hein, j'ai pas la date exacte, mais en tout cas, elle s'est faite de manière concomitante avec la création des marchés éco-solidaires qui ont vu le jour en janvier 2022.
Mais justement, c'est quoi ces marchés éco-solidaires ?
Alors, les marchés éco-solidaires, oui, c'est quoi ? C'est une bonne chose.
C'est quoi ?
Les marchés éco-solidaires, tout d'abord, rappelez un peu la genèse, hein. Ils sont nés courant 2021. Lorsqu'on était sur le terrain, lorsqu'on était en échange au moment des départementales avec ma binôme, parce que l'idée elle est venue de là, où on a rencontré un certain nombre d'acteurs du territoire qui nous ont fait part, la première chose, de gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on avait un marchand, vendeur de fruits et légumes du marché de Chalon qui m'a expliqué qu'il jetait une tonne de fruits et légumes par semaine. Rendez-vous compte, une tonne de fruits et légumes par semaine. Semaine qui était jetée parce qu'il n'avait pas de chambre froide. En discutant avec lui et puis en mettant en relation avec ce que l'on rencontre sur le terrain, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus en difficulté, Chalon, 21% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sur mon canton, j'ai des quartiers à plus de 55% de gens qui vivent avec moins de 1000 euros par mois. Donc on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve quelque chose, une manière de répondre concrètement aux difficultés des gens. Et de fil en aiguille, En décembre, j'ai proposé à Kira et à un petit noyau dur de bénévoles qu'on avait dans l'association. Bah écoutez, en janvier, on organise un événement, une rencontre entre des denrées alimentaires et des gens qui sont dans le besoin. C'était ça l'idée. Et puis petit à petit, on a organisé, ça s'est transformé en marché, ça a pris de l'ampleur. On a établi aussi des règles, on a établi une charte, c'est-à-dire que le fonctionnement, c'est l'euro symbolique. On l'a développé aussi à l'échelle départementale, puisque maintenant, il y a des marchés aussi bien à Chalon qu'à Vitry-le-François, et on est en train de le développer dans d'autres territoires. Et depuis janvier 2022, on organise des marchés globalement tous les 15 jours dans des quartiers différents, dans des communes différentes. Et on en organise même avec des thématiques aussi différentes, enfin des personnes cibles différentes. On en fait notamment à destination des étudiants, deux fois par an, de manière à ce qu'ils puissent se nourrir convenablement quand on sait qu'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim.
Comment vous avez réussi à mettre ça en place ? Il faut déjà beaucoup d'intermédiaires qui acceptent de vous donner leurs marchandises.
D'un claquement de doigts, c'est bien connu. Non, plus sérieusement.
je me dis, ce serait trop bien.
Ah, ça serait trop bien, mais néanmoins, si vous demandez à mon équipe, ils vont dire il a eu l'idée et on l'a fait assez rapidement. C'est vrai. Et comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait vite. Très vite, c'est ça.
Je vous dis, l'idée, on l'a eu en décembre 2021 et on a fait le 1er janvier en janvier 2022. Ah
ouais. Donc, c'est un claquement de doigts.
Mais le premier marché, d'ailleurs, c'était très artisanal. Hein. On a été jusqu'à tirer des rallonges électriques, on était à Schmitt, du troisième étage d'un appartement pour avoir un relais électrique parce que il manque d'équipement en l'occurrence. Et ça montre aussi qu'il manque des équipements sur le territoire. Trouver des salles, on est dans la difficulté. Pour trouver des salles, même pour organiser des marchés. On les fait dehors, quel que soit le temps, quelle que soit la température.
Là, c'est sûr, il faut être équipé.
On est
dehors. S'il pleut, s'il fait trop chaud.
Donc, nos marchés, on a nos bénévoles, on a notre marchand de fruits et légumes qui reste le même, qui est fidèle à notre projet depuis janvier 2022. Et puis ensuite, on a une entreprise qui nous aide, une entreprise différente qui nous aide à chaque marché et avec le don. Alors j'en appelle aussi aux dons, hein, notamment des entreprises. Un don de 200 euros nous permet grosso modo d'alimenter entre 150 et 200 personnes en denrées alimentaires. Parce qu'avec le don et les euros symboliques que l'on récupère, ça nous permet d'acheter 60 à 80 kilos de viande, à acheter plus de 300 œufs. Enfin voilà, on arrive.
Les frites de chez McCain.
Ça c'est un don de chez McCain et heureusement que parler, McCain nous accompagne aussi parce que c'est un tout et un marché sans viande n'est pas un marché, un marché sans fruits et légumes n'est pas un marché.
Eh bien merci Rudy Namur, président de l'association Notre Passion, c'est Chalon, on l'a compris, un marché sans viande ce n'est pas un marché sans légumes ce n'est pas un marché. Vous retrouvez les prochaines dates du marché éco-solidaire sur la page Facebook Notre Passion, c'est Chalon. Ainsi se referme le magazine régional. Ce lundi, on se retrouve demain à 18h10 pour de nouvelles aventures sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. Marion, on vous souhaite une très belle soirée.
Bonne soirée à tous.
À demain, 18h10. Prenez soin de vous. Dans quelques instants, c'est l'information nationale. À 19h12, le retour de vos programmes locaux. Et dès demain, 7h et 8h, l'information rédactionnelle sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes.